Mais Thierry, oui. Tito.
Bonjour.
Vous avez vu le nouveau gouvernement, là, oui. La ministre de la Culture, là, elle est d'où? Elle est d'où, la ministre?
Elle est d'Arles.
Elle est?
Elle est à Arles.
Elle est d'Arles.
Oui,
elle est à Arles.
Oui,
elle est à Arles. Et moi, j'ai voté où?
À Arles.
Arles. Voilà. Ah, vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Oui,
c'est... Non, non, mais je ne dis rien. Non, je dis, regardez-moi bien.
Ça y est, ça y est.
Je regardez-moi bien. Je ne dis rien, je ne prends aucune position politique. Mmh. Je ne suis pas là pour imposer telle ou telle opinion, tel ou tel vote, telle ou telle famille politique. Simplement, vous me dites quelle est de
Arles.
Et moi, je vote à
Arles.
Alors, vous... non, mais vous voyez ce que je veux dire. Faites très attention. Faites attention où vous vous garez, par exemple, chez vous. Ouais. Oui, faites attention à comment vous vous habillez. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous lisez, à ce que vous mangez. Et puis, tout se passera bien. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je sais, mais...
Dès quoi?
Ça veut rien dire.
Quoi, Arles? Arles?
Oui. Arles, oui.
La même ville que la ministre de la Culture.
Oui, et alors, il est
très fier. Voilà. Allez, c'est parti.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Et vous, Thierry Paret, votre studio à La Plagne, il est à côté de qui?
Alors, c'est les Deux Alpes.
C'est aux Deux Alpes, d'accord.
Mais il n'y a pas
vérifier,
de ministre.
Vérifiez,
je vais regarder quand même.
Laurent Wauquiez.
Le secrétaire d'État, je vais peut-être regarder.
Studio à La Plagne.
Regardez.
Non, je ne suis pas de là-bas, alors.
J'ai l'impression que Darmanin est ce qu'il y a avec vous. Le journal, 7h01.
On va en parler de Darmanin. Nicolas Hulot à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, François Bayrou à la justice, Gérard Collomb à l'intérieur. Voilà donc pour les poids lourds du premier gouvernement du quinquennat Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe aura également à ses côtés, entre autres, Gérald Darmanin, justement, membre du parti LR, qui aura en charge des comptes publics, la centriste Sylvie Goulard qui devient ministre de la Défense, Richard Ferrand, lui, se retrouve en charge de la cohésion des territoires, et puis Marielle de Sarnez qui accompagne François Bayrou depuis de longues années, elle sera en charge des affaires européennes. Plusieurs membres de la société civile font également leur entrée dans ce gouvernement. Françoise Nissen, la directrice des éditions Actes Sud, qui est nommée à la culture et qui vient donc de la ville de Arles. Tandis que l'ancienne escrimeuse Laura Flessel est nommée au sport. On compte au total dans ce gouvernement 4 personnalités issues du PS, 3 du Modem, 2 LR, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui, du haut de ses 34 ans, est le plus jeune membre du gouvernement. Alors ceci dit, on va noter quand même que la moyenne d'âge de ce gouvernement est plus élevé que le précédent gouvernement. On notera aussi qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et justement, à ce propos, il y a une promesse déjà non tenue par Emmanuel Macron. Le chef de l'État promettait pendant la campagne un ministère plein et entier, hein, consacré aux droits des femmes. Finalement, c'est un simple secrétariat d'État.
Faites pas le François Baron, faites pas le François Baron. Oui, regardez, vous il avait dit qu'il y aurait 2 roues et 3 blonds, et en fait, il y a 4 blonds.
Il y a 11 femmes et 11 hommes.
Vous l'aimez, le Emmanuel Macron. Très bien.
Je simplement, j'aime enthousiasmer, j'aime être heureux, j'aime prendre
vous
les
aimez ça. Au Brésil, le président Temer est éclaboussé par de nouvelles révélations et ça peut lui faire très mal. Il a chaud aux miches, pour ne rien vous cacher. Un enregistrement met en exergue...
Ça, les miches.
Un enregistrement...
Je vais te pujadasser, toi. On va te pujadasser. On te prend par les sourcils et on t'envoie au chômage.
L'homme qui tombe la pixe.
Un enregistrement met en exergue l'implication du chef de l'État, donc au Brésil, hein, dans un scandale d'un nouveau scandale de corruption. Des manifestants ont immédiatement réclamé sa destitution. Après 6 heures.
Arles ou pas?
Arles.
Après 6 heures de délibéré, Francis Holm a été condamné hier soir à la réclusion criminelle à perpétuité. Il était jugé par la cour d'assises de la Moselle depuis près d'un mois pour des meurtres de 2 enfants en 86 à Montigny-lès-Metz. David Pujadas, qui vit donc ses dernières heures à la tête du 20h de France 2, la direction de France Télévisions a justifié l'éviction du présentateur par une volonté de renouvellement. C'est la journaliste Anne-Sophie Lapix, donc qui pourrait sans doute même d'ailleurs le remplacer. Cette fois c'est fait, Monaco remporte le championnat de France de football. Les Monégasques se sont imposés 2-0 hier soir à domicile face à Saint-Étienne en match en retard. De telle sorte qu'ils ne peuvent plus être rattrapés au classement puisque désormais ils disposent de 5 points d'avance. Il reste une journée de championnat. Une victoire, c'est 3 points. Donc voilà, vous faites le calcul.
J'ai l'impression que vous parlez plus de Monaco que des autres équipes.
C'est les premiers, là, ils ont gagné.
Je trouve que vous avez un goût pour juste. Vous quand vous dites quel est le petit coin de France, quel est le petit quartier, le petit village, la campagne que vous aimez, vous répondez Monaco.
C'est vrai.
Et cette France-là, ça n'est pas la mienne, Thierry Paret.
C'est pas la France,
ce
Monaco,
vous
c'est
pas... C'est pas ce côté un petit peu extraterritorial, ce côté fiscalité avantageuse, ce côté royaume bananier, principauté, ce côté couronne sur la tête, ce côté yacht, ce côté Karl Lagerfeld. C'est vous, Thierry Paret. C'est ce journal-là que vous nous imposez, qui sent les années Sarkozy, qui sent le pognon, qui sent le caviar, qui sent les revers rutilants. Vous avez un pied ici, un pied au Festival de Cannes et le cul dans la soupière. C'est pas ce que ça veut dire, ça. Envoyez quelque chose d'autre parce que là, je vais faire la tranquille.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Dans les trésors cachés de la discothèque de Radio Nova, j'ai retrouvé cette jolie chanson de Perret. Eh oui. C'est pas mal. C'est tous les matins, ce comédien d'obédience belge, ce comédien d'Outre-Quiévrain, m'envoie une chanson. C'est souvent du Perret, mais je la trouve très jolie. Elle a été reprise beaucoup, les orgues de Barbac, comme le signalait Charlène et notre groupe. Mais c'est l'heure des connoisseurs. Qui, quoi, comment, pourquoi, avec qui ? Je vous prie de faire silence, car voici que s'avancent les connoisseurs. Ce sont des gens comme vous et nous, des gens qui paient leurs impôts, qui mangent leur pain, qu'ils partagent, mais qui s'informent et veulent nous le faire partager aussi. On reconnaît Atman Kelly, qui était une gloire du rugby albigeois.
Oui.
Et c'était tellement glorieux qu'il a dû quitter la ville.
Ouais. Oui. Je massais les mollets, je coupais les citrons, mais j'avais pas droit au ballon.
Coupeur de citrons dans le monde du rugby, c'est pas les plus gros salaires.
Non, c'est pas les plus gros.
Donc vous êtes monté pour gagner votre chance, tenter votre chance à la capitale. Vous inscrivez au Conservatoire National Dramatique.
Oui.
Ensuite, la compagnie des chiens avec Deschamps.
Makaïev.
On peut vous trouver d'ailleurs beaucoup de choses sur YouTube. On vous voit.
On voit quelques vidéos compromettantes.
Alors, qu'est-ce que vous. Tout ça, je vous déroule le tapis rouge pour que l'info du jour soit très forte. Alors, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? J'ai pas lu la presse.
J'ai pas lu la
presse. Non, tu te fous de moi ou quoi? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu hier soir? Marie Misset.
Ah, bah moi, j'ai lu la presse.
Voilà.
Je l'ai lu hier.
Marie Misset, elle n'a pas
ça
besoin d'un tel enrobage pour nous faire partager.
Elle est devant.
J'ai appris l'existence d'un singe qui peuple les forêts brésiliennes. Il s'appelle le Muriqui. C'est le singe hippie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les petits milieux interlopes des primates.
Mais c'est pas les singes entre eux qui l'appellent comme ça, j'imagine.
Non, les singes entre eux. Enfin, on ne sait pas comment ils s'appellent entre eux. Mais je te dis, dans les milieux interlopes de la recherche sur les singes, on les appelle les singes hippie. Ils sont sages et ils ont été épargnés par une fièvre jaune qui a beaucoup dévasté un bout de la forêt amazonienne. Et eux vont bien. Alors pourquoi on les appelle les singes hippies ? Eh bien déjà, ils s'agressent jamais, les mouriquis. Ils règlent leurs conflits à coups de caresses ou d'évitement. L'évitement, c'est très bien pour éviter les conflits en général. La société des mouriquis est égalitaire chez les mâles comme chez les femelles et même entre mâles et femelles. On parle aussi de peace and love quand on parle de mouriquis.
Oui, bien sûr.
Ils se touchent, ils se frottent, ils s'enlacent, tout ex confondu tout le temps. Toute la journée. Quand ils s'engueulent, ils se font des câlins après. La chercheuse la plus connue sur le sujet explique qu'une fois, elle s'appelle Karen Strier, elle est vraiment connue, elle est vraiment une sorte de ponte des primatologues. Elle explique qu'une fois, un mâle lui criait dessus alors qu'il les regardait et que quatre femelles sont venues toutes les quatre le gronder et ensuite se faire tous des câlins les uns entre les autres. Et elle finit l'article, en tout cas ça finit sur une de ses citations. Les muriquis nous montrent comment des primates vivant longtemps et dans un cadre social complexe peuvent conserver des relations égalitaires dans une société paisible. Dans le monde d'aujourd'hui, je vois difficilement une meilleure leçon à méditer.
Est-ce que le muriqui est conscient de sa récupération par une partie de la gauche française ?
Il ne le sait pas.
J'ai l'impression qu'il sert de caution à des nouveaux mouvements sociopolitiques ici.
Pourrait servir à d'autres. Par exemple, on nous explique que chez les muriquis, le mâle ne choisit pas. Il n'y a pas de mâle alpha. Le mâle se propose et les femelles disposent.
C'est très joli, bien entendu. Il est sur une sorte de réseau social, bien sûr. Il est là.
Il est là.
Son petit. C'est quoi ? On est plus sur Facebook que sur Tinder ? On est plus sur.
C'est ça. On est plus peut-être sur Tinder que sur Facebook.
Tinder ou sur adopteunmec.com.
Ou sur adopteunmec, effectivement, parce que les mâles font la queue et attendent sagement leur tour pendant que les femelles enchaînent les accouplements à un rythme acceptable.
Après, c'est peut-être le ratio homme-femme qui n'est pas le même que chez nous.
Six partenaires en 11 minutes. Mon Dieu.
Je vous remercie beaucoup.
J'en connais des mouriquis.
Si on dit à quelqu'un espèce de mouriqui, comment doit-il le prendre ?
Eh bien, ça dépend. Si c'est un homme de droite, peut-être qu'il peut le prendre mal.
Vous êtes encore dans ces vieilles lectures-là, droite, gauche. Mais rentrez dans le macronisme des choses, rentrer dans la macronisation des choses. Est-ce que vous avez vu aussi, à propos d'histoire naturelle, ce parc américain où on a réintroduit des loups?
Oui,
que
les loups, va bien.
Tout va bien parce que les loups ont mangé les coyotes, il y avait trop de coyotes. Et une fois qu'il y a eu moins de coyotes, les lapins sont revenus, les castors sont revenus. Les castors revenant, ils ont construit des barrages. Donc comme il y avait des barrages, d'autres types de poissons ont pu revenir parce que tout à coup, ils avaient besoin que l'eau aille moins vite, qu'elle soit un peu bloquée par des barrages. Étant donné qu'il y a eu plus de poissons, il y a eu plus d'oiseaux mangeurs de poissons qui ont commencé. Les oiseaux sont là, véhiculent des petites graines, donc ça a replanté des choses. Voilà, à partir de 4 loups, la vie revient, bien entendu. Sarah, vous, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Télévision, maison, lecture, les enfants?
Oui, ben, quand je suis rentrée, oui, j'occupe de mes petits-enfants. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites avec eux? Des jeux? Vous regardez des choses?
Non, il y a mon fils qui a 13 ans, il joue au Paris PSG.
C'est sur quoi? C'est une appli? C'est sur son portable? Je vois pas. C'est comment? C'est des mises au Paris?
Non, c'est un entraînement.
Ah, c'est un entraînement sur quoi?
Non, sur un club.
Il joue au
club.
Ah,
pardon. Il y a Sarah qui me dit, je crois. Alors moi, je voyais l'appli, prendre l'appli Paris PSG. Et toi aussi, il marque des buts pour le Qatar. Non. Donc, alors, il s'entraîne, il va au foot tous les soirs. Il va être foot professionnel ou pas?
Oui, c'est son métier, c'est ça qu'il voulait faire.
Et ça va marcher?
Ah, j'espère.
Ah ben formidable, dis donc, alors on connaît un des prochains joueurs du PSG.
Ah ouais, mais c'est formidable, on va rester en contact pour avoir des places.
Ça, comment je reste en contact avec les anciens d'Arles parce qu'après il leur arrive de très belles choses. Voilà. Merci Sarah.
Mais vous ne le saviez pas qu'il est arrivé ça?
Que l'éditrice Françoise Nyssen d'Arles serait ministre? Non, c'était très désintéressé le fait de
la prendre. Moi je me souviens de quelques repas chez vous où elle était là comme ça.
Bien entendu.
Et vous étiez très très sympa.
Très simple, très ouvert. Très simple. Bien sûr, moi je peux tout à fait fréquenter quelqu'un qui n'est pas ministre de la Culture, mais qui a intérêt à le devenir quand même. Voilà. Alors, Tito.
Alors moi, bientôt, on ira tous faire nos courses chez les poissonniers, parce que les poissonniers vont vendre aussi des algues. Il y a de plus en plus d'algues. C'est le légume de demain. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est peu calorique. Ensuite, c'est extrêmement riche en protéines. Ça contient des fibres, du fer. Il y a plus de fer dans les algues que dans les épinards. Et du calcium. C'est un aliment complet. Et il y a un problème, c'est que ça n'a pas très bon goût. Alors, on ne sait pas comment encore va l'accommoder.
Et puis, mais, il faut vite les manger, les algues, parce que très vite, ça chlingue, ça pue.
Ouais, c'est ça. Il ne faut pas traîner. Oui. Mais demain, on mangera tous des algues.
Bien entendu.
C'est extraordinaire.
Bien entendu. On va manger des algues. Préparons-nous tous aujourd'hui dans ce vent d'espoir qu'on appelle la macronisation. Arrêtons, plus personne n'est de droite ou de gauche, plus personne n'est jeune ou vieux, il n'y a plus d'hommes ou de femmes, il n'y a plus de méchants et des gentils. Dans cette énorme macronisation de la France que je propose, tout va bien, tout le monde partage tout, tout le monde est l'égal de l'autre. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'animaux et d'êtres humains, il n'y a plus de plantes et de pierres. Tout est une sorte d'union générale, de chapelet de bonheur, de collier de gloire et de joie. Viens rejoindre ce mouvement. Je viens fou, j'ai marché à mort, j'ai tout acheté.
Vous créez un mouvement là.
Je crois en tout, moi maintenant j'ai décidé de croire en tout après les années scepticisme et tout ça. Je crois tout ce qu'on me dit, je suis heureux. Quittons Paris une seconde.
L'éveil de la nature.
L'éveil de la nature.
Nous sommes sur les coteaux d'Anserune, à 15 km de la mer, à côté du Massif Central aussi, du Carou. Nous sommes avec Nathalie Genot, face à ces vignes. Bonjour Nathalie Genot.
Bonjour Edouard.
16 hectares.
Piano serait mieux, mais Genot, c'est pas mal non plus.
Eh bien, Nathalie, je vais vous dire, je vais renvoyer David Pujadas à la suite de cette erreur de voyelle. Vous ne me le pardonnerez en m'envoyant une bouteille de rouge, s'il vous plaît. Parce que c'est la nouvelle idée, c'est ceux qui ont raison qui s'excusent. Nathalie, à quoi ressemblent vos hectares de vignes? Quand vous les regardez, c'est quoi?
Quand je les regarde, je vois une mer verte, enfin, à aujourd'hui un peu brûlée. Que nous avons été touchés par le gel, mais voilà, en temps normal, je vois une jolie mer verte, habitée aujourd'hui par les oiseaux, par les insectes. Nous sommes en agriculture biologique, donc tout ça nous aide beaucoup à faire revenir la flore, la faune.
C'est-à-dire que la terre est très vivante, vous ne mettez pas de désherbant du tout, au lieu d'être ces terres où rien ne pousse. Autour des vignes, il y a beaucoup de ce qu'on appelait une vigne. À l'époque, on dit donc, il est sale ton terrain, il n'est pas tenu. Eh bien, maintenant, on s'aperçoit que c'est le contraire. C'est ça qui donne des vins avec des goûts qui ont plus d'identité.
Oui, effectivement. Effectivement, il faut habituer son regard pour les consommateurs à avoir une terre qui n'est pas labouré forcément sans une herbe. Il faut accepter d'y voir des herbes parce que c'est la base de la vie. C'est ce qui va faire revenir les insectes. C'est ce qui va aider le sol à fonctionner correctement. D'ailleurs, à partir de fin septembre, c'est notre prochain chantier. Nous allons semer des légumineuses entre nos rangs de vignes, justement pour travailler le sol en profondeur, de façon tout à fait naturelle, et par là même optimiser la vie bactériologique.
Est-ce qu'il y a un endroit particulier sur vos coteaux, donc sur ces terrains vallonnés, où vous aimez vous mettre et vous embrasser le plus le paysage? Vous avez un petit endroit préféré?
Ah oui, oui. Ça s'appelle le Carme.
Alors quand on monte au Carme?
Oui.
Oui, avec des bonnes chaussures.
Oui, avec des bonnes chaussures. Quand on monte au Carme, on a une très jolie vision sur la vallée avec, avec la basilique de la cathédrale de Béziers en fond. Et voilà, on voit des coteaux de vigne en face de nous. C'est bleu pour le ciel, c'est vert pour la vigne, avec des jolies courbes, c'est magnifique.
Vous recevez un peu des gens, il y a des dégustations, les gens viennent vous voir?
Alors, à partir de cette année, on met en place effectivement des activités non touristiques. Nous avons bâti notre cave l'année dernière pour la première fois et ouvert notre caveau l'année dernière pour la première fois. Donc, c'est surtout à partir de cette année qu'on va démarrer cette activité touristique, oui.
Alors Nathalie Janoul, je suis là, je suis à la sortie de Béziers avec ma voiture de location. Là, je ne sais pas, je vais vers où, là? Je suis quelle direction?
Vous êtes le bienvenu. Alors, vous êtes à la sortie de Béziers, vous allez prendre la direction d'Aulargues.
Alors, Aulargues, vers Aulargues, Gatmen. Oui.
Je connais,
s'il te plaît.
J'ai passé mon permis là-bas, Taizan les Béziers, c'est pas loin.
Alors, on va vers Aulargues, ensuite, et conduit au lieu de parler.
Oui. Et donc, à 10 km, le premier village que vous traversez, ce sera donc Maraussan. Et vous y serez accueillis avec plaisir. Donc,
on est à Maraussan, là?
Oui.
Je tourne où? Je tourne à droite, à gauche?
À droite.
Bon, alors, et là, on arrive, c'est indiqué, comment s'appelle exactement l'endroit?
Ça s'appelle Chapelle de Novilis.
À la Chapelle de Novilis.
Oui. Voilà.
Et là, vous êtes l'équivalent des moines de l'époque. Vous êtes là, Nathalie Janoul.
Déjà, je suis l'équivalent des vignerons indépendants. Oui. Déjà bien.
Alors justement, c'est parce que là, vous allez débarquer à Paris pour le salon des vins bio des vignerons indépendants. C'est à l'espace Champéret à partir du 19.
Oui, tout à fait. Ça démarre demain, vendredi, jusque dimanche soir. C'est la deuxième édition ou troisième, je ne sais plus. Deuxième édition ou troisième de ce salon, donc Nature et Vin, qui permet aux vignerons qui sont en agriculture et vinification biologique et aux vignerons labellisés haute valeur environnementale, nous avons les deux nous concernant, de pouvoir présenter leurs produits.
Alors c'est vrai que ce sont des vins toujours étonnants, souvent vraiment très très bons, et c'est aussi des personnalités incroyables. Moi j'ai rencontré un peu de gens dans ce milieu, c'est vraiment, il faut un courage, une volonté, une indépendance d'esprit très forte pour se lancer là-dedans.
Oui, comme il le faut dans toute l'agriculture, de façon générale. Hein. On a de fortes personnalités dans l'agriculture parce que c'est un métier difficile. On vient encore de le voir cette année avec les épisodes de gel qui ont frappé durement tous les vignobles français. Et donc, il faut passer ces étapes. Et si on n'a pas un mental de sportif, c'est difficile.
Nathalie Janoul, redis-nous juste ce que c'est qu'un vigneron indépendant. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que serait un vigneron dépendant? Alors, ça s'oppose à quoi?
C'est un collectif. Donc, des vignerons indépendants, ça s'oppose à des vignerons qui seraient négociants. Donc, nous sommes tous des propriétaires récoltants. Donc, en général, des petits producteurs. Voilà, sans passer par le négoce.
Merci Nathalie Janoul, c'est à l'espace Champéret à partir du 19, et vous, ce vin, c'est la Chapelle de Novilis.
Oui, merci à vous Edouard.
Merci. Belle journée dans vos
vignes. Belle journée à vous aussi.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Bien. Dites-moi, il est 7h30. Normalement, je sais, vous êtes habitué à la douce voix Thierry Paret pour son rappel des titres, mais on me signale que Jacques Souvent est en situation d'urgence dans la rue. Qu'est-ce qui se passe, Jacques?
Salut le vin! Aïe, filti, bego! Delicia, así você me mata.
Oui, en effet, oui.
Aïe, filti, bego! Aïe!
Enfin, il n'est que 7h du matin, les gars.
Bah, c'est la terrasse d'un café à Bastille, on est aux moules frites, poulet.
Oui, bah enfin, mon vieux, il est 7h30 du matin. Oui, comment, quoi?
Bienvenue ce soir, bébé.
Mais oui, bah enfin, les garçons, moi je veux bien, mais enfin, j'ai un... Qu'est-ce que c'est que cette table brésilienne?
C'est une table brésilienne, chérie. Alors, j'ai ma copine Taina qui est sans culotte.
Mais bien, grand bien lui fasse.
Bah, bien sûr. Et ma collègue qui est très généreuse, qui a pris le manger qu'on n'a pas mangé sur la table, qui va donner au SDF. Et j'ai un chanteur avec moi qui s'appelle Jesse, qui est très connu ici à Paris, dans les bars, dans le Marais. Donc, voilà.
Bon, bah, les gars, on vous retrouve après le journal de Thierry Paret.
Hein, il n'y a pas de souci, chérie, on vous attend avec patience.
Mon Dieu, mon Dieu,
il
mon
Dieu.
On dit n'est que 7h31 du matin.
Mais qu'est-ce qui les met en joie comme ça? Bah, peut-être les déboires du président brésilien, Michel Temer, hein, qui est éclaboussé par une affaire, enfin, de nouvelles révélations sur un scandale de corruption. C'est un
quand
peu,
vous parlez
un peu complexe,
des gens, pardon, dans l'international, en politique, dites-nous avant, gentil ou méchant. Moi, ça m'arrange, ça me mâche un petit peu.
Bah là, c'est difficile à dire. Hein,
non, Michel Temer. Prenez
bon, méchant, allez, méchant, Michel Temer. Oh, président du Brésil, méchant. Voilà. Un enregistrement a été diffusé hier sur la principale chaîne du pays, chaîne de télévision, enregistrement qui met en exergue l'implication du chef de l'État, donc Michel Temer, dans un scandale de corruption. Et il y a déjà eu des manifestations, hein, dès hier soir, qui immédiatement, des gens sont immédiatement descendus dans la rue pour réclamer sa destitution. Nicolas Hulot. Et maintenant au travail, c'est un tweet de Édouard Philippe. Donc Nicolas Hulot à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, François Bayrou à la justice, Gérard Collomb à l'intérieur. Voilà pour les poids lourds du premier gouvernement du quinquennat Macron.
Mais c'est bien qu'ils y passent, mais il faut qu'il ait ses ministères aux ministres. Pourquoi vous les citez dans ces lieux-là?
C'est vrai, bah, parce qu'ils sont nommés là.
Ah, mais dites-le, dites juste des noms et des lieux. Dites que c'est lié à des nominations et un emploi.
C'est vrai.
Le Premier ministre. Plus de plaisir.
Pardon?
La nomination qui vous a
fait. Non, mais monsieur, je n'ai pas à m'engager sur tel ou tel ou à dire. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas journaliste, mon métier n'est pas. Il se trouve juste qu'il y a une Arlésienne à la culture. Moi-même étant d'Arles, en tant que pays, en tant que régional de l'équipe, je félicite Françoise Nyssen. Je ne prends pas parti sur les sujets politiques.
Bon, on ne va pas faire tout le détail, mais on compte au total dans ce gouvernement 4 personnalités issues du PS, 3 du Modem, 2 LR, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui, du haut de ses 34 ans, est le plus jeune membre du gouvernement. Oh, ceci dit, on va quand même noter que la moyenne d'âge de ce gouvernement est plus élevée que le gouvernement précédent.
Tiens,
on va aussi noter...
Ces PV là, vous me les donnez, je pourrais les faire sauter. Pardon, excusez-moi, continuez.
On va noter aussi qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Hein. Atmen, il tient beaucoup. Et en même temps, on va noter aussi qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue du nouveau président Macron. Hein. Il avait promis un ministère plein et entier du droit des femmes. Il n'y en a pas.
C'est François Baroin
c'est
qui écrit votre
secrétariat d'État.
Et Laurent Bouffier qui les relie.
C'est pas mal. L'État de Washington, aux États-Unis, s'apprête à créer un label de marijuana bio, certifié par le ministère de l'Agriculture. La loi va permettre d'encadrer cette mesure. Elle a été promulguée mardi dernier, cette loi, par le gouverneur de cet État. C'est une performance qui ne passe pas inaperçue pour alerter sur la montée des eaux à Venise. L'artiste italien Lorenzo Quinn, qui profite de la Biennale de Venise, en fait, a érigé une sculpture monumentale, 9 mètres de haut, représentant deux mains posées sur un bâtiment historique de la cité des Doges. Les deux mains tentaculaires jaillissent de l'eau sur le grand canal, au milieu des gondoles, pour soutenir un mur. Venise a engagé en 2003 un chantier gigantesque pour endiguer le phénomène de la montée des eaux. Au total, ce sont 79 digues mobiles qui vont être installées d'ici la fin de l'année prochaine. Ces digues devraient permettre de contenir des marées allant jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est un peu long à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de problèmes de corruption.
J'ai fait
également.
la sculpture. Non, jamais c'est l'accent portugais.
C'est portugais. Ça ressemble à un Fellini, moi.
J'ai fait la sculpture pour évoquer l'idée qu'on pourrait faire le mur. Il y avait l'argent pour le mur ou pour la sculpture qui évoquait le mur. On a préféré l'évocation.
Oui, mais ça ressemble à du Fellini, moi. Oui, mais à Casanova, vous voyez la tête qui sort.
Et vous savez qu'à Venise, ce qui fait penser à. Il y a ce bateau qui arrive, je crois, dans un bar quand il y a un bateau. Il y a des gens qui sont à quai dans Fellini. On voit un bateau géant de croisière luxueux et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui voient passer ces lumières et ces gens heureux sur le bateau qui passe. Et à Venise, c'est pareil. Il y a des bateaux de croisière de 40 étages qui passent, qui font 4 fois les maisons de Venise et qui passent à 3 mètres du mur.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Comme si la grande mode se déplaçait d'un coup.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le journal, pardon.
Donc, David Pujadas aura le temps de faire des croisières. Visiblement, il est évincé du journal du 20h de France 2, remplacé par Anne-Sophie Lapix. C'est pas encore sûr le remplacement, mais a priori, si ça va le faire.
Qu'est-ce qu'ils ont contre Pujadas? Il criait la vérité. Et tout à coup, il est passé à l'as. T'appelles ça de l'équité? Journaliste et martyr, on t'a demandé de partir. Mais partir, c'est un peu mourir quand il n'y a plus de ta tête à la télé. Ta-da-da. Pujadas est chez lui. Mon Dieu, qu'il s'ennuie. Il se caresse les sourcils en espérant des jours meilleurs et le retour du bonheur. Ma gueule à la télé.
Son sort du journal.
Vous avez embrassé un flic, non?
Dernier mot. Un dernier mot, c'est Monaco qui est champion de France de football. Voilà, cette
fois, c'est fait un clown. Merci. Monaco n'est pas en France.
On s'en fout.
C'est une principauté. Voilà. Moi, je ne vais pas, n'est-ce pas ? Je ne suis pas. Il y a un prince comme ça. Il y a une cour. On a. Vous savez qu'à Monaco, si vous dites du mal du prince dans la rue, vous allez en prison. Tandis qu'en France, vous pouvez dire que Macron ou que Hollande ou Sarkozy sont des cons et vous marchez encore dans la rue. C'est un très beau pays. Vous habitez un très beau pays, Thierry Barret. Vous le salissez tous les jours, sous des noms d'emprunt. Parfois, vous faites appeler Laurent Wauquiez. Parfois, voilà.
Bon, tu sais que c'est sérieux. Il a été question d'enlever Monaco du championnat de France de football à cause de ça.
Oui,
hein.
C'est
une réalité. Hein.
Bien sûr. Retrouvons les Brésiliens, les Brésiliens.
Il faut mettre, allez, on retourne dans la rue avec les Brésiliens de Jacques Souvan. Ah, vous aimez ça, des gens bien bourrés à 7h30 du matin.
Avec des belles voix. Avec des belles voix.
Des belles voix, très, très.
Je vois qu'il y a pire que moi, ça me fait plaisir.
Allô ?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, on est toujours dans... Alors, qu'est-ce que vous fêtez, les Brésiliens de Paris ?
Alors, chérie, on fête la joie, le bon humeur, la chinance, bébé. On est là à Paris, on s'amuse, ma copine sans culotte.
Oui, ça, on leur a compris qu'elle n'avait pas de culotte. Donc, vous fêtez la fête.
Il fait mauvais temps, mais nous, on est comme si on était au Brésil, cara. Ma chérie, elle est là sans culotte.
Sans culotte, on avait bien compris. ça n'avait échappé à personne. Bien sûr, oui, du vent là. Et dites-moi, donc c'était donc sans culottes, et les autres ont donc des culottes. Donc vous êtes arrivé exprès du Brésil pour faire la fête à Paris.
On est arrivé du Brésil, bien sûr, hier. Voilà quoi, on a fêté un peu aujourd'hui, on fêtera demain et peut-être après-demain. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Ma copine aujourd'hui, elle a décidé de pas mettre de culottes.
Pas mettre de culottes, on avait bien compris.
Parce que ma copine, elle voulait pécho ce soir.
Elle voulait pécho, donc autant aller. D'accord, ça n'aurait.
Elle voulait pécho. Bon,
on a petite garantie que ça marche quand même.
Écoutez, j'espère.
Moi, j'ai envie qu'on parle avec la copine. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Alors, en fait, voilà, je me suis retrouvée sans culottes.
Ouais, ça, on l'a compris. Ça, là, on a dit au soir.
Je me suis retrouvée dans un bar. Oui. Qui s'appelle
le sans culotte.
Le bar caché, le Falstaff.
D'accord. Vous êtes contente à Paris, ça se passe bien ?
Et donc du coup, je voulais me trouver une proie ce soir.
Oui. Alors la nuit est encore jeune, comme on dit chez moi. Le soleil vient de tomber, hein, puisque vous avez vraiment tout le temps pour tomber amoureuse, bien sûr, aujourd'hui.
Hein ? Ah bah bien sûr, j'ai tout le temps pour tomber amoureuse. Mais bien bon, sûr. Pour une nuit de folie, il y a toujours.
Bien sûr, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Bien sûr, tout va bien se passer, mais pour
bien
vous
sûr.
Dire que ce soir, j'ai pas trouvé ma proie.
Mais cette proie, bien sûr, quoi. Entre tes serres acérées, hein, de petits faucons brésiliens, bien sûr, on ne met pas de culotte, bien sûr, le cœur est là, caché, cadenassé, pourtant on fait croire qu'on cherche des proies et qu'on va jouer à la guerre animale, la guerre sauvage, et pourtant on est là avec nos sentiments. Il est 7h40 du matin, on fait croire qu'il est 7h du soir, qu'on va prendre l'apéro, que tout est encore à vivre et espérer que tout est à commencer. Tout va bien se passer, ma grande. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais passer plus vite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Thomas Riby, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que quand vous étiez à l'école communale, de temps en temps, la maîtresse décidait de commencer par ordre alphabétique inversé pour que vous ne soyez pas toujours le dernier à être appelé ?
Jamais.
Donc
jamais,
le Zribi, Zribi était tout le temps commencé par Abdelatif, Bernard.
Non, parce que Zribi, c'est mon nom de famille en fait.
Oui, mais alors, mais il y a des gens dont le nom de famille est Abdelatif. Je veux dire, ne commencez pas.
Oui, Abdelatif, c'est un nom de famille aussi.
Alors
c'est
donc, on arrivait à la fin de l'appel, on arrivait à Zribi.
Ouais.
Ce qui vous permettait d'arriver un peu plus tard, puisque vous pouviez rentrer dans le
ça
rang.
Ça dépend. Juste... Bah, je suis content qu'on en parle parce que c'est quand même un sujet important. Ça dépend parce qu'il y a aussi des maîtresses qui considèrent qu'il faut arriver à l'heure même quand son nom n'est pas encore appelé. Donc c'était quand même assez variable.
Je comprends bien, mais que la maîtresse ne savait peut-être pas, elle ne peut-être pas se rendre compte que vous n'étiez pas là, tout occupée qu'elle était, à appler les Abdelatif, les Bernard, les Claude et
vous rentrez
et les
à la
Damien.
Dernière minute, comme ça, présent. Ça.
Mais alors après, vous savez, moi j'étais à l'école primaire vers la fin des années 90, donc c'est vrai que c'était une autre époque.
C'est une autre époque.
J'ai pas envie de dire mon âge.
C'était les hussards de la République à l'époque qui arrivaient, bien sûr. Quel est l'apport pour l'auditeur de cette minute 30 ? C'est simplement de la proximité avec vous, de l'intimité. Mieux connaître les intervenants ici, vous nous avez bouleversés.
Bah écoute, merci.
Ah, ouais.
Merci beaucoup, vraiment, ça me bouleverse que vous disiez que je vous ai bouleversé.
Ah oui, moi ça me touche beaucoup que vous soyez bouleversé par mon bouleversement. Est-ce qu'il y a un petit jingle, Manu ? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas Armel qui réalise l'émission, puisque Armel doit faire quelques heures par mois pour la société. société à la suite de, d'erreurs qu'il a commises. Voilà, donc passé. Il doit donner, ça s'appelle des travaux d'intérêt généraux. Et c'est Manu qui est là, qui est un grand talent de la réalisation, mais c'est un grand timide, ce Manu. Hein, qui
est il là est cantonnier, Armel, là, il ramasse des feuilles comme
c'est
ça.
Parce qu'il a le droit de s'approcher à moins de 50 mètres des écoles, des centres d'aération, ça compte.
Mettez-lui un petit jingle à Thomas Ribi, inventez quelque chose. Bon, Manu, déconne pas, Manu.
C'est bon, ça.
Salut, c'est Thomas Ribi. Actualité internationale, rien de ce qui était loin ne restera pas proche pour vous. Le monde, il est dans la fouille de Thomas Ribi.
Salut tout le monde. Eh bien écoutez, merci pour cette intro.
Salut à toi.
Écoute, j'ai plus le temps pour ta rubrique, en tout cas c'était super.
La rubrique n'était pas bon, mais l'intro était bien.
Okay, oui. Alors de quoi on parle aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais
Tom,
vous parler...
On vous appelle Tom Tom parfois?
Oui, Tominou.
Il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé.
Donc, j'aimerais parler aujourd'hui, si vous êtes d'accord, de Chelsea Manning, qui était, jusqu'à hier, l'une des prisonnières les plus célèbres et emblématiques au monde. Hier après-midi vers 15h, elle a posté une photo de ses pieds sur Twitter avec ce message « Premier pas vers la liberté », un tweet qui a été aimé des milliers de fois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Chelsea Manning est sans doute le plus important lanceur d'alerte, comme on dit, de l'histoire. Elle a rendu public les plus grands secrets de l'armée américaine. C'est pour ça que son cas était un exemple. Certains la voient comme une héroïne et ont milité pour sa libération. D'autres la considèrent comme une traîtresse et souhaitaient qu'elle passe sa vie derrière les barreaux. Alors l'histoire de Chelsea Manning commence dans la campagne de l'Oklahoma. Chelsea est alors un garçon. C'est plus tard en prison qu'elle a décidé de changer de sexe. À l'époque, elle s'appelle Bradley. C'est un enfant, puis un jeune homme décrit comme très intelligent et très engagé politiquement. En 2007, à l'âge de 20 ans, Bradley s'engage dans l'armée, dans le service des renseignements et est envoyé en mission en Irak, à une soixantaine de kilomètres de Bagdad. Son travail, avec plusieurs dizaines d'autres soldats, consiste à analyser des milliers de rapports de terrain et de vidéos d'opérations. C'est là qu'elle bascule. Elle tombe sur des informations secrètes et scandaleuses, des mauvais traitements infligés à des prisonniers, des morts civiles bien plus nombreuses que les chiffres officiels, la pratique massive de la corruption par l'armée, et surtout, elle découvre une vidéo qui date de 2007. Le film est pris depuis un hélicoptère de l'armée américaine. La conversation des deux soldats aux manettes est enregistrée. Ils aperçoivent un groupe d'une douzaine d'hommes devant une maison dans la banlieue de Bagdad. Ils pensent, sans aucune preuve, qu'il s'agit de terroristes. L'un des soldats crie « Allume-les, tire !» Une première rafale, puis une deuxième. Au moins 12 morts. Les soldats commentent « Regarde-moi ces pourritures crevées !» L'autre répond « Chouette !» Et on découvrira très vite qu'il ne s'agit pas de terroristes, mais de civils, dont deux journalistes de l'agence de presse Reuters. À l'époque, l'armée n'a pas reconnu sa faute dans cette affaire, ce qu'elle n'a jamais fait par la suite d'ailleurs. Toujours pas, ces deux soldats n'ont jamais été jugés. Bradley Manning hésite, puis lors d'une permission aux États-Unis en janvier 2010, décide de tout balancer. Manning envoie plus de 700 000 documents classifiés au site Wikileaks, dont une copie de la fameuse vidéo. Grâce à elle, le mythe de la guerre propre menée par les États-Unis s'effondre. Les deux soldats, je vous le répète, ne sont pas arrêtés et pas jugés, mais Bradley Manning est arrêté. Le procureur réclame 60 ans de prison pour trahison et collusion avec l'ennemi. Finalement, elle est condamnée à 35 ans de prison. Alors, ses conditions de détention sont terribles. Elle est soumise à un régime d'isolement presque total. Elle vit dans une cellule de 6 mètres carrés. Pour éviter qu'elle se suicide, elle est obligée de dormir en sous-vêtements dans une couverture impossible à déchirer. Ça ne l'arrête pas. Elle tente de mettre fin à ses jours deux fois. Elle obtient tout de même le droit de changer de sexe et de prénom. Elle suit un traitement hormonal, puis elle est opérée. Mais par exemple, elle n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux plus de 5 cm pour une raison assez mystérieuse. Pendant sa détention, une immense campagne de soutien s'organise et ses défenseurs comptent les jours. Ils savent que l'unique chance de Chelsea Manning de sortir de prison est que le président commue sa peine. Or, les élections approchent et Donald Trump est finalement élu. Comme on peut l'imaginer, Donald Trump, c'est vraiment pas le président rêvé pour Manning. Il l'a traité de traîtresse qui mériterait de passer sa vie derrière les barreaux. Aucune chance qu'il fasse un geste. Le dernier espoir, c'était donc Barack Obama. Et le 17 janvier dernier, l'avant-dernier jour de sa présidence, il décide d'écourter sa peine et rend sa liberté à Chelsea Manning. Il lui restait 4 mois à tirer jusqu'à hier. Donc, c'est une décision qui change sa vie. Elle aurait dû rester en prison jusqu'en 2045. Mais ça change aussi la position des lanceurs d'alerte. Avec ce geste, Obama a implicitement reconnu que Chelsea Manning avait eu raison de dire la vérité sur les bavures de l'armée américaine. Aujourd'hui, elle a 30 ans presque. On ne sait pas bien ce qu'elle va faire de sa nouvelle liberté. Elle a déclaré qu'elle souhaitait reprendre des forces à la campagne, mais selon ses proches, elle souhaite vite revenir à la vie militante et être une militante active de la cause des transgenres dans la société américaine.
Merci Thomas Ribi pour ce destin incroyable. Oui, merci.
7h, 9h, plus près de toi.
plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Donc ça, c'est ma mamie. C'est...
Donc mamie, elle vient dîner ce soir à la maison.
Oui, et elle reste me garder.
Et c'est ce soir que vous allez décider si tu dors chez elle ce week-end ou si elle dort chez toi.
Oui, je pense, mais de toute façon, c'est mes parents
qui décident, ouais. Mais parce que tu me dis, parce que c'est l'organisation du week-end, t'as un anniversaire samedi ou dimanche ?
Samedi.
C'est une copine de classe ?
Oui.
Et t'as déjà le cadeau ?
On va l'acheter vendredi soir, je crois.
T'as une idée de ce que ça va être ?
Oui.
C'est quoi ?
C'est une copine, elle aime beaucoup les expériences.
Ah bon ? Tu vas lui acheter quoi comme expérience ?
Par exemple, une boîte de magie ou une boîte de magicien.
De magicien, oui. Tu sais, t'as pas, parce que là, t'as quoi ? T'as 7 ans, 8 ans cette année ?
Je vais avoir 8 ans en novembre.
En novembre, 8 ans, donc tu peux avoir des boîtes peut-être où on fait des choses scientifiques avec de la fumée, où on fait exploser l'appartement, des trucs chouettes comme ça ?
Oui.
Il y a le truc
oui.
du docteur là, où on enlève les petits os là.
C'est pas marrant parce qu'on peut pas faire exploser l'appartement.
Ah bon ?
Donc le programme ce week-end, c'est comme tes parents, ils partent à la campagne.
On ne sait pas vrai encore.
Si tu dors chez mamie ou mamie dort chez toi, c'est ça ?
Oui, mais on ne sait pas si mes parents partent à la campagne.
Qu'est-ce qu'on on aimerait quoi ? Qu'ils partent ou qu'ils restent ?
Je ne sais pas, moi.
Bah si, t'as bien une idée.
Non.
Que ce serait plus sympa qu'ils restent ou tu veux aller déconner avec mamie ?
Je ne sais pas.
Qui est plus sévère ? Mamie, elle est sévère ou tu fais
non.
un... Non. Elle te laisse faire un peu ce que tu veux ?
Oui.
Par exemple quoi ?
Par exemple, c'est bien aussi si je reste un peu avec ma mamie pour faire, par exemple, le cadeau pour la fête des mères.
Ah oui, mais ça, c'est peut-être une surprise. Il faut peut-être pas en parler à la radio, parce qu'imagine que ta maman écoute la radio. C'est un truc que tu vas fabriquer toi-même ?
Oui.
Un collier de nouilles, ça fait toujours plaisir.
Ça fait toujours plaisir.
Je vais te dire, ma chérie, si tu n'as pas d'idée, tu prends des nouilles, tu fais passer un petit fil dedans, et alors ça, je peux te dire, ça fait toujours plaisir.
Toujours plaisir. Non c'est l'intention qui compte.
Cette semaine, vous en avez affaire.
Vous le portez encore. Des paquets de pâtes.
Non
j'ai une idée.
Oui. C'est quoi
Un bouquet de fleurs en papier.
Ah, ça, ça fait toujours plaisir aussi. Ça dure plus longtemps. Souvent que les feuilles. Mais ne mets pas d'eau dessus, contrairement aux vraies fleurs. On va écouter ta poésie, Suzanne.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Baba.
Eh bien, on t'écoute, ma chérie.
Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui va pour toi. Il y a un beau petit cottage dans le jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. Il y a un petit bois charmant sur la colline. Il y a un berger qui fait paître ses moutons. Il y a un rideau de peupliers. Délicat, délicat. Il y a toute la vie. Guillaume Apollinaire.
Et puis il y a Suzanne qui a très bien dit son poème.
Oui.
Hein, et puis il y a nous tous qui t'écoutons. Et qu'ils sont heureux que tu sois passé.
Et c'est déjà le premier cadeau pour la mère d'avoir bien dit le poème.
Je t'embrasse très fort, Suzanne. C'était super. Tu veux nous dire une dernière chose ?
Non.
Eh ben non, c'est bien.
Moi, je voulais dire qu'une petite fille qui va voir sa grand-mère avec un cadeau, c'est déjà le petit chaperon rouge.
Pour faire
une belle transition. Pour
sortez. Merci, Suzanne. C'est par eux. Il y a des petits ponts épatants. Je racontais le poème de Suzanne tout à l'heure. Il y a des petits ponts épatants, c'est formidable comme phrase. Le journal de Thierry Perret avec cette jolie minute de retard qui fait la grâce de Thierry Perret.
De Thierry Perret.
Et maintenant, au travail. Ouais, je voulais faire aussi un, mais ça a raté. Et maintenant, au travail, a tweeté hier le Premier ministre, Édouard Philippe. La composition du gouvernement a donc été enfin dévoilée. Bon, vous
c'est
la connaissez.
Vous, hein. Et maintenant, au travail ou c'est
et maintenant, au travail.
Non, mais l'idée de lancer votre rythme, votre accroche, c'est très fort.
Ouais.
Ah oui, ça vous motive. On est là, on a l'impression que le journal sera sans accroche, sans intention. Et
puis d'un seul coup.
Ah oui, vous êtes un journaliste engagé. Mais vous leur dites, c'est une injonction, mettez-vous au travail.
Ouais, c'est ça.
Ah oui,
c'est ça.
Vous êtes un citoyen
engagé, on peut le dire comme ça. Donc, vous en connaissez sans doute déjà l'intégralité de cette composition, vous la connaissez bien sûr. Nicolas Hulot qui se retrouve à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, on ne va pas tous les faire. Hein. Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, François Bayrou à la justice, Gérard Collomb à l'intérieur, voilà pour les poids lourds
dis donc,
du premier
continuez,
gouvernement continuez, du quinquennat continuez. Macron. Ok, le Premier ministre aura également à ses côtés, entre autres, alors faut que je me souvienne, Gérald Darmanin, hein, membre du parti LR qui aura en charge les comptes publics, la centriste Sylvie Goulard qui devient ministre de la Défense, Richard Ferrand qui se retrouve en charge de la cohésion du territoire, Marielle de Sarnez, hein, proche de François Bayrou depuis de longues années, qui sera en charge des affaires européennes. Voilà, j'en voulais encore.
Et puis,
il y a plusieurs membres de la société civile aussi hein, qui font également leur entrée dans ce gouvernement. On pense à Françoise Nyssen, directrice des éditions d'Actes Sud, qui est nommée à la culture. Je sais pas, on ne la connaît pas.
Françoise Nyssen, elle est de quelle ville ?
Arles.
Et moi, je vote où ?
À Arles.
Voilà, alors faites le rapprochement et tenez-vous à carreau.
D'accord. Il y a aussi l'ancienne escrimeuse Laura Flessel qui est nommée au sport. On compte au total dans ce gouvernement 4 personnalités issues du PS, 3 du Modem, 2 LR, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui, du haut de ses 34 ans, est le plus jeune membre du gouvernement. Ceci dit, notons quand même que la moyenne d'âge de ce gouvernement est plus élevée que le précédent.
Notez que mes voisins ne paient pas leurs impôts.
Voilà, je vous demande de noter ça dans un coin.
C'est vraiment.
D'ailleurs, puisqu'on en est là, notons que la composition de ce gouvernement ne remplit pas toutes les promesses du candidat Macron. En comptant le Premier ministre, le gouvernement compte 12 hommes et 11 femmes, mais parmi ces dernières, 8 seulement sont ministres de plein exercice. Une seule a un portefeuille régalien, Sylvie Goulard, aux armées. Notez ça dans un coin. Je pense que c'est grave aussi. Notons aussi que le chef de l'État promettait pendant la campagne un ministère plein et entier consacré aux droits des femmes. Finalement, c'est un simple secrétariat d'État. Emmanuel Macron avait aussi dit qu'il ne reprendrait pas de ministre de François Hollande. Je me permets de le glisser quand même au passage. Après, vous en faites ce que vous voulez.
Il a eu des retards. Il a eu un quart d'heure de retard au déjeuner aussi. Après, c'est grave.
On a failli attendre.
C'est grave. Au Brésil, un nouveau séisme politique. Le président du pays, Michel Temer, a été enregistré par un chef d'entreprise en train de donner son accord à des pots de vin pour acheter le silence de l'ancien chef des députés, Eduardo Cunha. Inutile de vous dire que ça fait beaucoup de bruit sur place et qu'il y a déjà des premières manifs pour réclamer sa destitution. L'État de Washington, aux États-Unis, s'apprête à créer un label de marijuana bio, certifié par le ministère de l'Agriculture. La loi qui va permettre d'encadrer cette mesure a été promulguée mardi dernier par le gouverneur. David Pujadas ne présentera plus le 20h de France 2. Il va être remplacé très certainement par Anne-Sophie Lapix. Monaco est champion de France de football. Cette fois, c'est fait. Les Monégasques ont battu Saint-Etienne hier soir 2-0. C'est un match en retard en Ligue 1 et Monaco ne peut plus être rattrapé au classement. Et puis un mot de la météo quand même, bien que Tito arrive derrière moi. Après 2 jours de beau temps, les températures vont sensiblement chuter aujourd'hui. Avec, et c'est important, des risques de fortes pluies à caractère orageux dans l'après-midi des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est.
Merci Thierry Paret. Tito, en effet, vous êtes là.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Éric. Attention, accrochez-vous. Voici quelques températures sur la France. Alors, à Agen, entre 8 et 17. À Beauvais, entre 8 et 19. À Clermont-Ferrand, entre 8 et 22. À Dreux, entre 8 et 17. À Limoges, entre 8 et 17. À Metz, entre 11 et 21. Marseille, entre 12 et 29. Nantes, entre 7 et 16. À Pau, entre 8 et 16. À Poitiers, entre 16 et 15. À Saintes, entre 8 et 15. Saint-Étienne, entre 6 et 22. Vienne, entre 9 et 25. Et Papette, entre 24 et 29.
Ça veut dire quoi, laï, 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 en fait? Ça revient souvent dans des...
C'est la
fin de la foule de Michel Rivgauche. Laï, 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 laï.
Ça permet à chacun de mettre les paroles qu'il veut.
À la place du... Donc on retire le laï, laï, laï. On occupe l'espace par le laï, laï, laï. Et quand les paroles arrivent, on vire le laï, laï, laï.
Un peu d'improvisation dans chacun de ceux.
Donc ce sont des mots d'attente. Ce sont des mots factices qui sont là pour éviter qu'il y ait un creux.
Si on ne connaît pas les paroles, on peut les remplacer.
Par laï, laï, laï. Mais une fois qu'il y a les paroles, on ne remplace pas les paroles par un autre laï, laï, laï.
On peut en même temps accompagner laï, laï, laï sur les vraies paroles.
C'est beaucoup plus clair grâce à vous.
Vous
faites beaucoup de bien aux gens. Attention, il y a plusieurs éléments là importants. Donc ça, c'est bon. Jacques Souban, pourquoi vous n'êtes pas dans la rue, mon vieux?
Je ne sais pas pourquoi. Alors, il va falloir que j'y retourne.
Oui, allez, il y a un club de sport à côté. Vous aviez bien aimé une dame qui faisait de la gym. Allez, vous avez le temps d'y aller.
Je vais y retourner.
Essayez d'avoir un rendez-vous quotidien avec cette jeune femme qui fait des abdos.
D'accord, je prends son téléphone aussi.
Non, mais il ne s'agit pas de vie personnelle, c'est de faire partager des émotions et des mouvements du corps aux auditeurs. Vous savez, à la radio, on aime bien sentir que quelqu'un court et transpire pour nous. J'y cours. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Le dispositif est très très savant là, puisque nous sommes à la fois ici, donc en plateau, avec Joël Pommerat. C'est gentil de passer nous voir, Joël Pommerat.
Non, mais c'est gentil de m'inviter, surtout.
Déjà, cet échange était à un niveau de courtoisie tel qu'on bah, pourrait presque... Non, parce que vous n'aimez pas tellement, vous n'êtes pas... Vous n'étiez pas chez Pujadassi hier soir, vous n'avez pas vous levé le matin. Ouais. Donc ça, c'est bien. Donc là, on est là. Donc là, déjà, on est... il y a une sorte de solidité. Il y a un socle là de l'émission. Au même moment, il y a Jack Souvent, qui n'est pas n'importe quoi non plus, qui est à, juste à côté dans le Café Nova avec le Odd and Brass Band.
C'est la pleine balance, là.
C'est, les musiciens sont en train de se préparer.
Bah, ils se préparent, ils sont en train... Parce que c'est un gros... c'est 8 musiciens, 8 cuivres, et ça va être assez impressionnant, le volume sonore. Oui. Et donc là, ils viennent d'arrêter, donc je peux avoir un petit son, peut-être.
Oui, ça serait bien, parce que sinon, personne ne vous croit.
Hello
oui.
Can I have just this little sound of
alors,
trombone?
C'est une phrase en anglais. Can ouais. I have,
on va écouter un petit son de trombone.
Je ne suis pas sûr que trombone se dise trombone, mais enfin...
Si, ça se dit. Ouais.
C'était bref.
Oui,
mais moi c'est la Nouvelle-Orléans.
Je ne vous cache pas que j'ai passé un excellent moment.
C'est plus Orléans que la Nouvelle, à mon
avis. Jacques, souvent. Joël, vous n'avez pas gardé votre casque. Vous êtes senti emprisonné?
Un petit peu, ouais. Ça fait un effet oui. un peu bizarre. Hein,
moi, ouais, ça me rassure, ça protège du monde extérieur.
Ouais, mais là, je vais essayer de rentrer en communication avec vous.
Je vous remercie, oui. Ça nous isole les uns des autres un peu. Alors, je vous libère une oreille.
Ouais,
et je suis au téléphone. Et on est avec Sébastien Proyard au téléphone.
Oui, bonjour.
Sébastien Proyard, demain c'est l'anniversaire de Média Handicap.
Oui, c'est l'anniversaire de l'Association nationale Média Handicap qui a 13 ans. Et on réunit des personnes, des adhérents de l'association pour passer un bon moment. Et pour moi c'est très important parce que c'est les 13 ans et moi je suis atteint d'une maladie orpheline qui ne me lâche jamais. C'est une 24 heures non-stop et j'ai subi beaucoup d'opérations pour pouvoir me tenir debout.
Alors je sais Sébastien, on se connaît depuis des années, que toi tu continues, tu fais énormément de sport, tu fais de la gym, tu ne lâches rien.
Ouais, je suis comme toi, je suis toujours à fond dans le sport.
Oui. Oui, c'est bien gentil de j'aimerais bien. Merci de m'associer à ton courage. C'est au Méridien Étoile, c'est demain. Qu'est-ce qui va se passer pour cet anniversaire
oui, soirée sur un trip son et c'est plus pour les adhérents de l'association et on va les mettre en relation avec des personnalités pour passer des bons moments et le but de l'association c'est de faire des interviews avec des personnalités et aussi des actions de sensibilisation en situation de handicap, c'est-à-dire mettre en fauteuil roulant une personne valide ou avec les yeux bandés. Donc c'est une soirée, mais tout au long de l'année, on met en place des sections de sensibilisation pour que vous pouvez nous accompagner.
Oui, toute l'année, tu fais ça, tu fais rencontrer des gens qui sont en situation de handicap, avec des gens qui ne le sont pas, qui essayent d'essayer de comprendre ou ressentir ce que vivent les autres.
Bah oui, parce que 80% des handicaps sont invisibles et le fauteuil est l'arbre qui cache la forêt de nombreuses richesses et la culture du défi est toujours dans les gènes de notre association. Pour ma part, avant que l'association se mette en place, j'ai eu la chance d'interviewer Clint Eastwood et aussi Edouard Baird.
Effectivement, là, on est dans des niveaux... On tutoie les étoiles. Merci beaucoup. La culture du défi, j'aime bien cette expression, la culture du défi.
Et aussi, la vie, elle est très importante. Moi, j'aime la vie à mort. Et le plus important pour moi lors des actions, c'est de voir le sourire des personnes en situation de handicap après une rencontre. Parce qu'au bout d'un moment, ils oublient leur maladie et ils se soignent aussi par les médicaments, mais ils se soignent aussi par les initiatives et aussi par la culture du défi de Média Handicap.
Merci cher Sébastien Proyard, Média Handicap, si on veut s'inscrire pour demain. Il y a un site, on va voir ça.
Donc vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de l'association, c'est Média Handicap. Et donc mais par contre pour demain c'est sur invitation.
Ne venez pas, c'est privé demain. Non, c'est sur invitation.
Bon, enfin, mais le plus important c'est de mettre en place des actions de sensibilisation tout au long de l'année. Et ce qu'il faut savoir, j'étais atteint d'un lourd bégaiement jusqu'à l'âge de 18 ans. Et le bégaiement, c'est un autre handicap qui est invisible. Et le bégaiement, c'est l'exclusion. Et avec toi, je suis monté sur scène avec le au Grand Maté.
Oui, tu étais monté sur scène avec Rolin et moi au Théâtre du Rond-Point, ça a été formidable, tu avais joué dans une scène, oui.
Oui, donc c'était un souvenir que je n'oublierai jamais. Et c'est de là qu'est née aussi la mise en place des défis aussi pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, c'est bien de penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres. L'important dans la vie, c'est de se sentir utile et de repousser les limites de son corps et de son esprit.
Merci, camarade. Salut, Sébastien Proyard.
Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt, salut.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Marie Misset, si la politique ne vous intéresse pas, je suis désolé, j'ai l'impression
qu'il
faut changer de métier parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'en revue de presse, vous êtes obligé de dire...
Je me noie. Je me noie.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Dans la presse du jour, on revient évidemment sur le gouvernement nommé hier. Libé estime que ce gouvernement est surtout de droite, c'est la une. L'UMA qu'il s'agit d'une machine de guerre libérale. Le Figaro estime que puisque la gauche crie à la droite, alors c'est que ce gouvernement est dans la bonne voie. Macron en marche vers le centre droit, disent-ils. Le Parisien se contente de demander qui sont ces gens et revient sur la nomination qui a fait parler hier, celle de Nicolas Hulot. À l'écologie, la sensation Hulot, celui qui avait toujours refusé de rentrer au gouvernement et qui, depuis hier, déchire les réseaux sociaux. Sert-il de caution à un gouvernement dirigé par un ex d'Areva ? Est-il là parce que, comme le dit Pascal Durand dans Le Parisien, ça ne peut pas être pire avec lui que sans lui. En tout cas, on apprend dans Le Parisien toujours que l'homme est surnommé commandant Cousteau. L'homme s'est donc longtemps couché de bonne heure, une réserve de sommeil qui devrait lui servir quand il s'attaquera à l'épineux dossier de Notre-Dame-des-Landes, projet de nouvel aéroport à Nantes que le Premier ministre Édouard Philippe a toujours soutenu. D'ailleurs, Ouest France posait tout de go la question hier. Ce grand opposant à Notre-Dame-des-Landes, qu'est Nicolas Hulot, qui parlait d'un projet vicié, gangréné, qui porte en lui la discorde, le genre de cas d'école de ce à quoi il faudra renoncer dans les années à venir, a-t-il dealé l'abandon de l'aéroport contre son entrée au gouvernement? Pour les pro-aéroports, pas du tout. Tout ça est une bonne nouvelle, Nicolas Hulot ayant reconnu la validité du référendum sur la question. Alors il y a des gens qui s'en foutent pas mal des validités de référendum, qui s'en foutent pas mal du vote en général et qui crient « tout le monde déteste les élections ». C'est la génération ingouvernable et tapis derrière le comité invisible auquel Street Press consacrait un long papier la semaine dernière. En manif, sur les blocus ou dans les NAS, les adeptes du comité invisible qui prône le rejet des partis, les manifs sauvages, l'appel à l'insurrection, sont omniprésents. Le comité invisible, c'est l'entité anonyme derrière le livre « L'insurrection ». Qui vient. 10 ans après sa sortie, le bouquin est de retour tant sur les tables de chevet des manifestants radicaux que dans les rapports de la DGSI. La génération ingouvernable s'en est majoritairement empérée de cette pensée et la description de l'usage de ce livre fait penser parfois à l'ouvrage mystérieux du maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Ce manuel de l'insurrection, dont tous les chapitres commencent par des slogans qui deviennent des mots d'ordre, des bannières, est un petit livre vert qui s'échange et se glisse partout. Je cite toujours Street Press, traduit en plusieurs langues, vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Il est même brandé livre dangereux par Fox News, de quoi booster les ventes. Et il est accompagné d'un slogan aux origines aussi mystérieuses que le livre « Nous sommes de ceux qui s'organisent ». Un autre livre du comité invisible à nos amis s'imprime lui sous le manteau. Il est distribué gratuitement. Chez les libertaires, d'ailleurs, ils ne font pas l'unanimité. À Notre-Dame-des-Landes, comme dans d'autres ZAD, le comité invisible est bien présent. Et un des propos de l'insurrection qui vient, donc ce best-seller, est de dire que la société est un désert qu'il faut fuir d'urgence. Eh bien, dans l'UMA, on nous décrit les habitants d'une région des Cévennes qui, justement, vivent dans un désert et s'en passent très bien. Là-bas, certaines mairies n'ont pas Internet. Dans le fin fond des vallées, on ne peut avoir ni mobile ni fixe. Quand on a un mobile, ça ne marche jamais. Résultat, faire société, lit-on, devient compliqué. Les villages sont désertés, deviennent de simples zones de passage. Les habitants se battent pour accéder au réseau et faire corps avec le reste du pays. Le désert, eux, ils ne l'ont pas choisi.
Merci Marie-Mise. C'était quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le gouvernement dans le Parisien? Ils disent, qui sont ces gens?
Non, mais c'est pas, le propos n'est pas de dire qui sont ces gens, c'est juste, ils les présentent. C'est pas de dire qui sont ces gens affreux.
Double lecture quand même.
Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les meut? Une ambition individuelle ou collective? L'espérance de lendemain qui chante ou sort sortir eux-mêmes du tragique, modeste de leur vie quotidienne? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui leur fait avaler ces couleuvres, recevoir ces crachats, ces mains qui se refusent, ces regards qui se dérobent et d'autres qui soudain les rappellent, se rappellent à leurs bons souvenirs, les services, les clients? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les tient? Qu'est-ce qui les porte? Qu'est-ce qui les mène là? Qu'est-ce qui leur donne le courage d'y aller? Le sombre ou la lumière, la partie obscure ou la partie joyeuse, la gloire ou le don de soi? Qui sont ces gens qui acceptent d'aller là-bas, là-haut?
Salut.
7h-9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Le journal de Thierry Paret, sous la haute autorité de Joël Pommerat, ça me permet de citer.
Le Parti des Travailleurs, formation politique de l'ancienne présidente du Brésil, ainsi que cinq autres partis d'opposition réclament publiquement la démission de Michel Temer. Le président du pays se retrouve au cœur d'une affaire extrêmement embarrassante. Il a été enregistré par un chef d'entreprise en train de donner son accord à des pots de vin pour acheter le silence de l'ancien chef des députés, Eduardo Cunha. Inutile de vous dire que ce nouveau séisme politique au Brésil, ça fait beaucoup de bruit. Il y a d'ailleurs déjà des premières manifestations pour réclamer la destitution du président. Et maintenant au travail, a tweeté hier le Premier ministre, Édouard Philippe. La composition du gouvernement a donc été enfin dévoilé, vous la connaissez sans doute, hein, Bruno Le Maire à l'économie, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, François Bayrou à la justice, Gérard Collomb à l'intérieur, Nicolas Hulot se retrouve à l'écologie. Voilà pour les poids lourds de ce premier gouvernement du quinquennat Macron. On va pas citer tout le monde. Si on me fait signe quand même, comme quand j'ai quelques secondes.
Parce qu'à 8h on était là aussi.
D'accord. Quelques réactions. Julien Bayou, c'est le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, il souhaite bon courage à Nicolas Hulot, bien seul pour peser dans un gouvernement pro-charbon, nucléaire et CETA.
Voilà, et puis alors les réactions. Il y a un mec très à droite qui a dit vraiment ce gouvernement est trop à gauche, un mec très à gauche a dit ce gouvernement est trop à droite, voilà.
Ouais, on dit sinon quoi d'autre? Il y a Benjamin Lucas, notamment le président du mouvement des jeunes socialistes, il a lancé une alerte enlèvement et c'est intéressant, on a perdu le ministère de la jeunesse. Voilà, on notera qu'il n'y a il n'y a plus non plus de ministère du logement,
c'est très
ministère
grave.
Du logement, bon. Or le logement reste pourtant le premier budget des ménages.
Il y a peut-être des gens qui vont s'en occuper quand même, il n'y a pas besoin d'un intitulé. Voilà. Faites court.
D'accord. Jean-Luc Mélenchon s'inquiète pour ce qui concerne la nomination de l'éducation de quelqu'un qui a été directeur de l'ESSEC. Et puis autre réaction encore, c'est Éric Woerth, député LR de l'Oise, qui parle d'un échec de l'opération de débauchage à droite.
Tout est raté déjà, tout est foutu, on va tous crever.
Bon. Il y a 4 PS, 3 MoDem, 2 LR dans ce gouvernement. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, 34 ans, c'est le plus jeune membre du gouvernement. Il sera en charge des comptes publics. L'État de Washington aux États-Unis s'apprête à créer un label de marijuana bio certifié par le ministère de l'Agriculture. David Pujadas ne sera plus sur le 20h de France 2 très prochainement. Il va être remplacé très certainement par Anne-Sophie Lapix. Cette fois, c'est fait. Monaco remporte le championnat de France de football. Et puis un mot de la météo quand même, parce qu'après deux jours de beau temps, les températures vont sensiblement chuter aujourd'hui. Et surtout, il y a des risques de fortes pluies à caractère orageux cet après-midi du côté des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est.
Ah ben voilà, c'est bien.
C'était bien.
C'était très bien. Joël Pommerat, je peux enfin vous dire bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là donc depuis 30 minutes. Vous voyez ce que c'est que d'être le matin à la radio, c'est que tout arrive plusieurs fois.
C'est du sport.
Oui, c'est du sport. Ouais. C'est le jour sans fin, un peu comme ça. C'est qu'on reprend toutes les demi-heures, on réapprend les choses. Joël Pommerat, vous n'êtes pas là juste pour le plaisir de vous lever tôt le matin. Vous êtes là parce qu'il y a un spectacle de vous au Bouffe du Nord qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, qui se joue jusqu'au 20 mai. C'est la partie informative de cette interview, de cet entretien, de ce grand dialogue de 8h35, qu'on a vu avec Atmen hier, à 16h.
Avec des enfants.
Avec des enfants, des adolescents. C'était tout à fait étrange.
D'anciens ministres aussi, il y avait au fond.
Est-ce qu'Atmen voulait en dire un mot, là?
Oui, ben moi j'ai vu 45 minutes de bonheur. De bonheur parce que tout d'un coup, j'ai retrouvé un conte que j'avais oublié, qui a été modernisé comme un... avec plein de références sur tout le cinéma japonais de Kurosawa, moi je trouve, avec la forêt.
avec des références à tous ces films d'horreur encore japonais, The Ring ou L'Exorciste. Et ça m'a transporté dans un grand spectacle de cinéma et, qui a été très violent à regarder et très joyeux après à raconter.
Alors ça, c'est votre point de vue.
C'est mon point de vue.
Entendu, c'est bien. Moi, il m'a manqué, il m'a manqué oui, la bobinette chair. Je vous en ai beaucoup voulu, Joël Pommerat.
Parce et que les dents.
Vous réécrivez le conte dans votre langue, puisqu'après, on le redira. C'est vrai que les gens parlent de vous comme étant écrivain de scène. C'est-à-dire que vous écrivez en même temps que vous mettez en scène vos spectacles. Et là, vous avez réécrit l'histoire, vous l'avez réinterprétée, mais vous n'avez pas gardé cette phrase de mon enfance dans Le Petit Chaperon Rouge. À un moment... Tire la chevillette et la bobinette chez Rat, ce n'est pas gentil.
C'est vrai, mais j'ai l'impression que les spectateurs, ils l'ont dans la tête, alors oui. C'est pas la peine de leur...
Pas besoin d'en faire un karaoké.
Mais si vous faites un Hamlet, vous n'allez pas m'enlever le dormir, rêver peut-être.
Ah, oui. Si. J'avais pas pensé, mais je pense que, évidemment, si je montais Hamlet, je pense que je referais pas le coup de...
Être ou ne pas être.
Non, je pense pas. Non. Mais non, c'est les gens quand ils arrivent. Ouais. Mais les gens quand ils. En fait, il faut écrire avec. Enfin, pardon, je suis sérieux.
Mais si.
Je pense que les gens, ils viennent avec tout un tas de choses dans leur tête. Il faut aussi prendre en compte tout ça quand on écrit, quoi. Ça sert à rien de redire des choses que les gens se passent en boucle déjà en arrivant. Enfin, leur imagination, elle peut aussi. Faire partie du travail de la mise en scène et de l'écriture de l'auteur. C'est ce que j'essaie de faire. Quoi.
Mais j'aime bien que vous disiez, vous évoquiez, même dans la création de public, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux, que ce soit au cinéma ou au théâtre, maintenant il y a un théâtre ou un cinéma qui dit « moi je fais les choses pour le public et moi je fais les choses pour ma sincérité », comme si on ne pouvait pas, que les deux ne pouvaient pas se rencontrer, quoi. Comme si c'était une trahison d'aller vers le public, comme si c'était vulgaire d'aller vers le public dans certains, certains théâtres publics.
Franchement, ça peut être vulgaire aussi de sans arrêt parler du public, quoi, hein, sans arrêt dire moi je pense au public. Et puis voilà, parce que généralement, quand on dit ça, on pense à ceux qui n'y penseraient pas, qui seraient de sales intellectuels.
Oui, il y a un côté anti-élitiste. Oui, non,
voilà,
non, c'est
aussi,
pas ça. Non, bien sûr.
Un petit peu populiste, même. Voilà. Donc moi, je pense au spectateur, mais le spectateur, pour moi, c'est... Il n'a pas de visage, c'est un être humain que j'imagine, un peu fabriqué comme moi je peux l'être, et j'essaye de lui faire une place, mais en fait, c'est assez égoïste, c'est-à-dire que je pense à moi quand je suis dans une salle, et à ce que j'aime et ce que je n'aime pas qu'on me fasse, quoi, en fait.
Le public, c'est vous aussi, oui.
Ah ben
oui,
en fait, c'est, en fait oui. Voilà, donc en fait, c'est que moi et moi, tout ça, voilà.
C'est son premier spectacle.
Alors, pour qualifier vos spectacles et les choses qui reviennent, les gens parlent d'abstraction, ils parlent des noirs, il y a beaucoup de thèmes comme ça, des gens parlent d'influence de cinéma, vous parlez du roman, mais il y a une chose qui est très belle, mais qui doit être aussi un peu écrasante et emprisonnante pour un auteur, c'est qu'on reconnaît tout de suite un spectacle de Joël Pommerat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Est-ce que vous...
Bon, je sais pas, c'est pas très grave. Après, moi, ce qui peut me gêner, c'est d'avoir l'impression que je refais à chaque fois la même grammaire ou enfin, que je réemploie les mêmes expressions, on va dire. C'est une espèce de routine. Je veux dire, c'est important, je pense, pour un artiste d'arriver à suivre ses intuitions et du coup, au bout d'un moment, quelque chose se cristallise, quelque chose se forme. Et je pense que ça devient une identité d'un artiste. Mais après, si l'artiste, il est prisonnier de cette identité, c'est comme si, bah, finalement, il s'enfermait lui-même à l'intérieur de sa petite maison et qu'il essayait de vendre son produit, quoi. Donc, par exemple, oui, en ce moment, je fais des spectacles où, par exemple, il n'y a plus ces fameux noirs, enfin, qu'on dit que qu'ils sont un peu une signature, tout ça. J'en ai plus besoin, par exemple, de faire ces fameuses transitions au noir. Je pense que j'ai d'autres moyens, entre guillemets, de mise en scène pour créer des... Enfin, pardon, je parle des noirs, peut-être les
pour
gens...
Pour créer des bruits comme dans le montage, pour créer des arrêts, des césures... Voilà, c'est un langage un peu cinématographique, le passage au noir, des arrêts, des choses...
Des ellipses, en fait.
Des ellipses, oui.
Le théâtre, tel que moi je l'ai connu, il savait pas faire des ellipses. C'est-à-dire que c'est la fameuse unité de temps, de lieu. On raconte une histoire, pendant 3 heures, on est dans la chambre à coucher, et on y reste, et tout va se passer là. Enfin, alors que moi, je pense pas au cinéma, je pense... Le roman, ça découpe les actions. On peut passer d'une époque à une autre, on peut bouger. C'est le mouvement, c'est un mouvement. Et ce mouvement-là, moi, il me manquait au théâtre. Et je n'avais pas envie d'aller au cinéma pour avoir accès au mouvement. Donc j'ai essayé de trouver des procédés, des moyens pour pouvoir, par exemple, faire des scènes qui durent 15 secondes au théâtre. Pourquoi on ne pourrait pas montrer un moment, voire même silencieux, parce que le théâtre, ce n'est pas obligé que ça parle, silencieux, qui dure 15 secondes, voilà. Et puis c'est tout ce qu'on montre de ce moment-là. Et puis après, on passe très très vite, 5-10 secondes après, on passe à tout à fait ailleurs et tout à fait plus loin ou avant.
Donc il y a des accélérations, il y a des surprises, il y a des accidents.
C'est pas tant de faire des surprises pour faire du zapping, parce que là, quand je dis ça, j'entends, ça zappe parce qu'on s'emmerderait sinon. Mmh. C'est plutôt de suivre un mouvement de pensée. C'est pour ça que je parle du roman. Le roman, c'est pas ça zappe pas. Et pourtant, d'un chapitre à l'autre, on peut se déplacer totalement et très très rapidement, puisque c'est immatériel.
Alors quand c'est très monté, on dit que c'est presque du cinéma, comme quand les gens veulent arriver, les romans américains, Dos Passos, ils se sont dit, mon Dieu, c'est des collages.
C'est trop simple. Oui. Oui.
Et je sais pas pourquoi c'est la référence et le cinéma dans le montage. Alors que vous avez raison, c'est pas. Oui.
C'est bête, parce que je pense que le cinéma a pompé, enfin, s'est inspiré de la littérature pour pouvoir, en créant tous ces mouvements là. Et parce qu'en fait, le premier cinéma, qui était un cinéma peu inventif et finalement très était inspiré par le théâtre, c'était du théâtre filmé. Le premier cinéma, c'était on filme des pièces de théâtre.
Ouais,
et c'est,
on filmait des faits d'eau, oui. Mais la littérature, c'est elle qui a créé le cinéma, puisque ce sont les auteurs qui étaient frustrés de ne pas pouvoir raconter des choses qu'on crée par la photo, le cinéma, après la peinture. Ça,
ouais, je ne savais pas l'histoire. Mais... Merci.
Non, merci.
Alors moi j'aime bien ce que vous dites sur cette idée de chercher à pas se ressembler, à pas se citer, c'est-à-dire ce qui donnerait presque le style. Les peintres, ils disent que c'est le style contre la manière, un peu. C'est les choses qui vous échappent, qui font votre identité, en fait.
Ouais, mais je pense que c'est bien qu'au début d'un parcours d'artiste, on laisse les intuitions et aussi des choses qui échappent. Au bout d'un moment, faut reconnaître quand on fait quelque chose depuis 25 ans, on est obligé de se demander. De se prendre un petit peu de distance avec soi pour se dire, bon, tiens, qu'est-ce que je fais de manière presque un peu instinctive et automatique ? Est-ce que c'est toujours bien l'instinct et l'intuition ? Est-ce qu'on peut aussi se mettre avoir un esprit critique sur ses propres intuitions ? Et là, ça devient, pas plus compliqué, mais ça devient différent, quoi. Je pense qu'en vieillissant, on se comporte différemment que quand on est jeune.
Je crois que vous êtes juste au moment où vous avez besoin d'un tout petit peu de pub. Je le sens, je ne sais pas comment vous l'expliquer.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h,
Édouard Baer.
Je passe une matinée.
Vous avez échappé vraiment à une conversation. Ahmed Kélib disait à Joël Pomera, c'est malin ton truc Cendrillon à la Porte Saint-Martin pendant l'été, parce que c'est très climatisé. Ouais. Le spectacle, c'est du rêve. À la fois, il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Et pendant l'été, il y a de l'émotion, il y a des sentiments. Ahmed, vraiment c'est un margoulin.
Je suis une vraie merde, quoi. Je me vends un pour moi.
Joël, c'est un spectacle Cendrillon. Vous prenez tous les contes de notre enfance, tous les contes.
Non, mais
vous voulez
Pinocchio,
qu'est-ce que vous avez
d'abord je les prends pas là, enfin je les prends pas, ce sont des spectacles qui ont vécu depuis un certain temps, qui se retrouvent là par hasard à Paris au même moment.
C'est pas entièrement hasard, il y a une production, il y a des conservations.
Non, mais je veux dire qu'on n'a pas voulu faire un événement autour des contes. Il y a le petit chaperon qui joue au Bouffe du Nord jusqu'à la fin de la semaine, et Cendrillon qui démarre la semaine prochaine. Tout ça n'était pas concerté. Et il y a Pinocchio qui va jouer au Festival d'Aix-en-Provence à partir de ma pièce, sous forme d'opéra, avec la musique de Philippe Boussmans. Hein, ça, vous n'alliez pas en parler, donc c'est pour ça que j'essaye de le caser.
Je vais vous dire, Joël Pomera, je pense que vous avez un peu trop échappé à la vulgarité jusqu'ici. Vous êtes un peu hors sol. Je vais donc vous demander de mouiller un peu la chemise, de vous salir les mains. On va vous mettre un fond musical et je vais vous demander de me faire de la publicité pour le spectacle Cendrillon.
Mettez un casque.
Où est le casque ? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette radio artisanale ? Attention, publie information. Attention, non, Manu, remettez à zéro le morceau. Cendrillon au théâtre de la Porte Saint-Martin, le fameux, légendaire spectacle de Joël Pomera, présenté par lui-même.
C'est un spectacle sur la mort, sur la mort d'une maman qu'une petite fille aimait beaucoup.
J'en ai déjà vendu 200.
Non, c'est vrai que c'est un spectacle qui travaille sur un thème très difficile. C'est un spectacle qui a été fait pour les enfants et en même temps qui marche aussi pour les adultes, je l'espère, mais qui avait comme ambition de traiter un sujet pas du tout vendeur, la mort. La mort et comment les enfants arrivent à faire le deuil d'un être irremplaçable, quoi, en l'occurrence d'une mère. Et là, cette Cendrillon, parce que j'ai respecté en même temps l'histoire, c'était ma petite idée sur l'attitude de trop sympathique de Cendrillon, cette fille qui accepte qu'on lui fasse du mal sans rechigner, tout ça. Je trouvais ça suspect et j'ai un peu, en fait, lu le conte une deuxième fois et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit détail au début de l'histoire, c'est qu'elle perd sa maman, cette jeune fille. Et en fait, je me suis dit, mais voilà pourquoi, hein, elle se sent pas bien, on serait à moins, et elle se culpabilise de continuer à vivre. Tout simplement parce que comment on explique aux enfants qu'ils ont le droit de continuer à vivre, même si voilà leur mère est morte, et qu'ils peuvent quand même rire, s'amuser, avoir des projets et tout ça. Et cette petite fille ne veut plus, dans mon histoire, elle décide de penser à sa mère tout le temps. Et dès qu'elle oublie de penser à elle, elle a une montre qui sonne toutes les 3 minutes pour lui rappeler que, éventuellement, au cas où, il faudrait qu'elle pense à sa mère. Et
rappelle-toi donc, de souffrir un peu, rappelle-toi qu'il faut être triste, ou rappelle-toi...
Rappelle-toi de penser à ta maman, sinon, si tu n'y penses plus, elle va vraiment mourir. Voilà. Ça, c'est...
Donc, ce n'est que dans le souvenir, c'est parce qu'on se rappelle les gens qu'ils existent encore.
La deuxième mort, c'est l'oubli, quoi. Donc, elle a compris ça.
C'est la famille recomposée aussi.
Oui, parce qu'effectivement, bon, elle se retrouve.
Je ne me sens pas bien.
Je suis désolé, bon, je m'arrête.
Parlons de Cendrillon à la Porte Saint-Martin.
Mais les gens vont aller le voir.
Mais oui, faut
parce que c'est un spectacle absolument légendaire. Ça serait quoi un adjectif, comment il dit, félinien, on voit à peu près, modianesque, on voit, pomeratien ou pomeratesque, ça serait quoi?
J'espère que ça serait...
Un univers pomeratesque, un monde pomeratien.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi,
ça,
j'ai.
Ça serait
un spectacle à voir.
Non, oui, non.
Mais non, mais je...
non, mais parce que c'est vrai. Je vous avoue, j'ai vu deux de vos spectacles. À chaque fois, j'ai eu un choc.
C'est des cauchemars joyeux, moi, je dirais ça. Un peu. Alors, il y a des cauchemars joyeux,
rarement. Quand on ne sait pas ce. Ah merde, oui, j'aurais dû. Quand on pose une question, il faudrait imaginer la réponse.
La réponse, alors, évidemment.
Non, mais franchement, c'est vachement dur comme
question. Oui, je sais bien. Non, ça m'est venu comme ça. Je suis désolé, je n'attendais pas.
Comme
c'est vrai que tout à coup, c'est des univers réels et que ça ne ressemble à personne d'autre. Et donc...
Déjà... Non, j'ai aucune idée.
En tout cas, moi, je suis aussi très jaloux de vous parce que j'ai vu que l'idée d'être... Vous êtes engagé avec une troupe, leur dire on va rester 40 ans, faire 40 spectacles, c'est-à-dire de porter les gens qui vous portent en même temps. Je trouve que c'est une grande réussite humaine aussi, quand même.
Oui, c'est pas facile tous les jours non plus. Hein.
Non.
Mais c'est vrai que on travaille bien dans la fidélité, la complicité. Quoi.
Et la vie privée rentre aussi, j'imagine.
Non.
Ça quoi pas.
La vie privée continue aussi après.
Je trouve ça très indécent ce que vous dites.
Mais pourquoi?
Je trouve ça d'une vulgarité.
Mais quand on vit en troupe, on travaille avec la vie privée aussi.
Je ne peux pas l'entendre.
Vous faites ça depuis 20 ans avec moi, donc arrêtez.
Je suis obligé, Joël Pomera, je dois les rejoindre. À côté, il y a le live qui se prépare, il y a ce grand jazz band de New Orleans qui est là. Venez avec nous, on va se déplacer, on va faire 7 mètres. Cendrillon, hein, c'est à la Porte Saint-Martin.
La semaine prochaine.
Hein, allez-y, c'est vraiment un spectacle magnifique. Et c'est à partir de jeudi 25 mai. Tout va bien? Alors on va écouter le live. Il y a de la pub? C'est très bien.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
C'est la foule des grands jours au Grand Café Nova autour de Rudy et du Hot 8 Brass Brand. Est-ce qu'il y a du monde ici?
Oui.
Ah, j'adore. Tout ce que j'aime. Est-ce que ça va?
Oui.
Ah, c'est tout ce que j'aime. Rudy, présentez-nous ce groupe légendaire de Nouvelle-Orléans.
Tout à fait. Ça fait 200 ans que la Nouvelle-Orléans, la New Orleans sont encore Nola pour les intimes. Résonne, vibre, danse, fête et pense ses plaies au son, à l'énergie, au groove des brass bands. Ce matin, nous avons avec nous le Hot 8 Brass Band, l'un des brass bands les plus emblématiques qui, depuis 20 ans, marche en avant vers la vie, en musique. De la feel-good musique, comme ils le disent eux-mêmes, qui leur permet de faire face à leur propre drame, puisque 4 membres du groupe sont ayant disparu depuis sa création, et au drame qui les entoure, en l'occurrence évidemment Katrina, qui laissa leur ville dans un état de désolation ultime. Alors le Hot 8 joue tout le temps, dès qu'ils le peuvent, pour transporter le son, l'âme de la New Orleans hors de ses frontières, mais surtout pour le côté social de leur musique, faire sourire instantanément, faire danser frénétiquement, réunir tout simplement. Ils étaient hier soir au New Morning. Ils seront à nouveau ce soir au New Morning. On les emmènera à Saint-Etienne pour une nuit zébrée. Ils viennent nous présenter leur nouvel album qui s'appelle On the Spot. Guys, welcome. Thanks to be there so early in the morning.
Oh là là, très très bon anglais. Wow, classe.
Merci, Edouard. Hot Head Brass Band. Let's go.
Oh, yeah. Good morning, everybody. We in the building. Mighty, mighty, mighty early. Original music right here, titled On the Spot. Let it drop. Get it on the spot. You get it on the spot. You see hot, hot, hot. You get it on the spot. You get it on the spot. You see hot on top. You get it on the spot. You get it on the spot. You see hot, hot, hot. You get it on the spot.
Hot and Eight Brass Band, c'est ici ce matin à Nova, c'est la folie. Merci beaucoup et moi je vous retrouve avec grand plaisir lundi matin. Salut.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.